Le masque et la plume de l'été. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré en ce dimanche 6 août à l'actualité du cinéma avec la planète des singes de la critique. J'ai nommé évidemment Sophie Avon du Sud-Ouest, Michel Simon de Positif, Eric Neuhoff du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession pour parler ce soir de la planète des singes, mais également des nouveaux films d'Emir Kusturica, Terrence Malick, Luc Besson, sacrée soirée quand même, mais également de DT 93, de Ma Cousine Rachel et du Cercle. Enfin, on va essayer de parler de tout ça dans le courrier de la semaine à propos du jour d'après. Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence nous dit « Je n'en peux plus de la paresse des critiques qui, à chaque nouveau film de Hong Sang-soo, environ 6 fois par an, compare ce réalisateur à Eric Rohmer. Personnellement, je ne vois rien de commun entre ce tâcheron coréen qui n'arrête pas de tourner le même scénario depuis des années et l'immense cinéaste qu'était Rohmer. Même colère de Jérôme Duvivier. Je dois te dire, cher Masque, que tu surestimes grandement Hong Sang-soo, un cinéma plus prétentieux que profond, qui se veut original, mais ne fait qu'user de procédés. Faites-moi plaisir, puisque vous avez évoqué Murnau, Revoyez l'aurore, un vrai film profond, puis le jour d'après, dites-moi ce que vous en pensez.
Ça n'a rien
à voir. Sois pas désobligeante avec les auditeurs, s'il te plaît. Dommage, car la première scène était formidable, comme le relève Eric Neuhoff. Ensuite, c'est ennuyeux, et on a juste envie de dire à Hong Sang-soo, on s'en fout. Contrairement à vous, Pascal Poli a aimé ce qui nous lie de Cédric Clapiche. Ce film est beau, sincère, Sophie. Il aborde des thèmes de la vie qui nous touchent tous à un moment ou à un autre, le deuil, les choix de famille, les fêtes. Et cela fait du bien, Sophie. De plus, les images sont très belles, même si on ne connaît pas la région, Sophie. Philippe Chavernac partage le même sentiment. Chers amis masqués, ayant la plume acérée, la parole aisée, je suis allé voir ce qui nous lie. On retrouve bien sûr quelques clichés qu'affectionne le réalisateur sur l'amour de la terre et de la vigne, mais ce n'est pas grave, Sophie. On passe un très bon moment. Je dirais que c'est un film légèrement tannique, un petit vin de l'été, Sophie, qui ne donne pas mal à la tête, et c'est déjà pas mal. Sylvette Tola remercie Agnès Varda et JR pour avoir gommé d'un coup de génie la morosité de mon samedi. Leur voyage est un enchantement d'humanité, tout est intelligence et beauté de l'âme. Si vous ne pouvez voir qu'un film cet été, laissez-vous subjuguer par le génial visage village. Simone Arnaud de Montville nous remercie également d'avoir conseillé, alors que la presse était si sévère, le film « Nos Patriotes » de Gabriel Le Baumin. Merci aussi d'avoir recommandé, c'est ce que j'avais fait à la fin, le livre « Le terroriste noir » de Tierno Monet-Membo, qui a paru en Point. Micheline Lévy nous reproche, mais à mon avis à tort, en parlant du vénérable V de Barbet Schroeder, d'avoir minoré les violences infligées aux musulmans et provoquées par des moines bouddhistes racistes. Oui, je sais, ça existe. Au nord-ouest de la Birmanie, des émeutes meurtrières ont fait ces dernières années des centaines de morts, des dizaines de femmes violées, des dizaines de milliers de personnes déplacées, parquées dans les camps. Mais je crois qu'on l'a bien dénoncé dans notre émission. Et puis Charles Tessier suggère aux auditeurs du Masque et la Plume d'arrêter de perdre leur temps et leur argent à aller voir n'importe quoi au cinéma, au lieu de haïr les critiques qui osent raconter les fins des films. Car si le visionnage d'un film est gâché par le fait d'en connaître la fin à l'avance, cela signifie que le film en question ne tient que par ce petit fil.
Exactement.
Et ne supporterait même pas d'être vu deux fois, donc que c'est une daube. J'ajoute, dit Charles Tessier, j'ajoute que je revois au moins une fois tous les films que j'ai vraiment aimés et que c'est presque toujours mieux la deuxième fois. Pas mal comme explication. Dommage que Pierre Murat ne soit pas là, il aurait aimé entendre ce courrier. Allez, pour votre plus grand bonheur, je le disais, le chimpanzé César est de retour dans ce troisième et biblique épisode inspiré du roman, il faut quand même le rappeler, du français Pierre Boulle, on l'oublie parfois. Bon, il n'est plus vivant, mais enfin, c'est quand même lui qui a écrit le roman. Après les origines et l'affrontement, le temps est venu de la planète des singes, Suprématie, un film réalisé par Matt Reeves, où Andy Serkis prête sa voix et ses expressions à César, je le rappelle, ex-animal de laboratoire doté d'une intelligence surhumaine depuis qu'il a servi de cobaye dans un traitement contre Alzheimer et qu'il a libéré le peuple des singes du joug humain. Là, il s'agit en l'occurrence pour la tribu d'affronter un ordre fasciste, Michel, dirigé par le colonel Woody Harrelson, lequel a décidé mais de manière très très violente son extermination. Peux-tu me dire ce que tu penses de ce film ?
Beaucoup de bien. C'est-à-dire que, d'abord, c'est la franchise la plus ancienne avec James Bond. Ça fait 50 ans qu'on fait...
Si tu permets, c'est la seule série qui se prolonge plutôt bien.
Oui, avec
quand
ce
on voit
film,
les autres.
Pas c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs de la série. Alors, c'est vrai que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est boule qui roule à masse de l'argent. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un film...
De la monnaie de singe.
Non, bon, monnaie de singe, oui.
Si,
non,
même,
mais c'est un film d'abord...
Je doute, mais tout de même.
Jaloux.
Un peu, ça c'est vrai, je ne te mens pas.
Non, c'est un film d'abord qui est un plaisir de cinéma. On pense vraiment à des westerns d'Anthony Mann, on pense à des films d'action, évidemment, à des films de guerre. C'est un composite de plusieurs genres. Et c'est un plaisir physique de voir ce film, les paysages enneigés, des poursuites absolument magnifiquement filmées dans un style très classique. C'est pas du tout un film d'esbrouf qui essaye de nous tromper. Ça joue la carte du classicisme. C'est aussi une réflexion. Ça m'étonne pas que finalement le public populaire aime la science-fiction parce que la science-fiction est philosophique, c'est-à-dire elle pose des questions. Et là, en particulier sur
chez Luc Besson, c'est un peu plus limité.
Oui, mais j'ai pas évoqué Luc Besson. Tu as remarqué, il lui manque un air. C'est pour ça que je n'en parlerai pas.
Ne les sors pas toutes quand même ce soir, Michel.
Le soleil doute. Fais gaffe, Michel.
Allez, c'est bon, t'en as fait deux, maintenant c'est fini.
Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir l'espèce humaine qui est déclinante, qui est de moins en moins intelligente. Il n'y a qu'à voir ce commandant des forces spéciales qui est une sorte de facho épouvantable. Et au contraire, les singes qui évoluent de mieux en mieux. Et c'est confirmé par l'actualité, parce qu'un peuple qui élit Trump comme président fait douter sur les capacités intellectuelles de l'esprit humain, alors que les singes sont présentés au contraire par des gens extrêmement intelligents, qui pacifistes, mais qui néanmoins, le César a en lui-même un conflit personnel, puisque c'est un pacifisme et qui, en même temps, ne peut pas accepter que son peuple soit tué et qui, donc, décide de combattre. Bon, c'est une morale qui me plaît beaucoup et je trouve que c'est un film tout à fait passionnant.
Éric ?
Ah, c'est très bien, oui. Ce César, ce singe, c'est l'homme de l'année. Il est fabuleux, c'est un acteur incroyable. Il est courageux comme John Wayne, il est émouvant comme Richard Burton et il sait même pleurer comme Audrey Hepburn. Il est magnifique. Et les trucages...
C'est vrai, j'aurais jamais pensé à Audrey Hepburn, mais bon...
Ah, mais comprends. Si, quand il pleure, là... J'étais bouleversé. Et pour une fois, les trucages sont formidablement bien faits, parce que c'est ce qui était gênant dans les premiers épisodes, et même dans le début de 2001, c'est qu'on voyait tellement que c'était des types avec une panoplie de Noël, qu'on rigolait presque. Mais là, ils sont là, les singes, et l'histoire est très très intéressante. Michel a raison, on est au cinéma. C'est un film très très beau, à la John Ford, avec des paysages incroyables, des avalanches, des combats, c'est sidérant. Et il y a du souffle, et il y a du fond, il y a une vraie histoire, il y a des références et de l'humour. Ça se moque d'Apocalypse Now à plusieurs reprises avec Woody Harrelman qui singe à Marlon Brando en se rasant le crâne, en vivant dans l'obscurité. Et c'est un film qui nous permet de renouer avec le plaisir du vrai cinéma populaire, du cinéma d'été. J'y suis allé vraiment en traînant les pieds, moi, la Xème mouture des singes après tout ce qu'on s'était tapé.
Ça n'est que la troisième. Oui, ça n'est que la troisième, là. C'est pas non plus là.
Oh, mais il y en a eu beaucoup plus avant.
Non, mais il y a d'autres, oui, mais de la série.
Bah, j'avais pas dû voir les deux précédents, alors, mais ça n'est pas gênant.
Tim Burton, et puis le premier, surtout.
Tim Burton était un saumon.
Franklin Schaffner.
Non, mais là, il y a un vrai scénario. C'est un truc passionnant, comme dans un bon western, Fort Alamo ou La prisonnière du désert. Il y a une petite fille qui est la seule humaine au milieu de tout ça. On racontera pas la fin, mais il y aura une suite.
Sophie ?
Oui, moi je trouve ça magnifique. Alors moi j'avais beaucoup beaucoup aimé le début de la trilogie, c'est-à-dire le premier et le deuxième, qui étaient déjà de matrice et qui étaient peut-être encore plus beaux que celui-là. Enfin moi j'adore vraiment le deuxième et celui-ci est très 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 beau. Il y a d'abord parce que comme a dit Michel, il s'est filmé magnifiquement avec la mélancolie de César, avec la canopée qui est filmée avec ces singes qui grouillent dans la canopée, c'est un film de guerre et à l'intérieur de la violence il y a des suspensions. Enfin il y a comme ça une façon de filmer les paysages qui est absolument extraordinaire. Et surtout, comme dans tous les grands films de fiction, de science-fiction, pardon, en effet, ça se lit à plusieurs niveaux. Donc, en effet, il y a un niveau métaphorique de fable, c'est avec cette espèce cousine qui nous permet de nous regarder, nous autres humains. Et en même temps, il y a un vrai versant réaliste, parce que c'est presque un film d'éthologie moderne. C'est-à-dire que grâce à ce film, on peut se poser la question de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité au sens de qu'est-ce qui est humain. Enfin, est-ce qu'il faut être humain pour être humain ? Est-ce qu'il faut être un humain pour être humain.
C'est une question, c'est entre Montesquieu et
Non, mais et ben, réellement, c'est ce que disait Michel, mais oui, c'est vrai, mais c'est absolument. Une formidable méditation sur la nature humaine. Et l'éthologie montre aujourd'hui qu'en effet, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de l'empathie chez les animaux. Donc l'adjectif humain n'est plus approprié. En tout cas, il nous permet de redéfinir cet adjectif. Donc vraiment, je trouve que c'est un film...
Il y avait
film...
eu récemment un documentaire formidable sur ce singe qui était au jardin des plantes.
Ah oui, c'est très beau.
Qui était bouleversant.
Nénette, c'était Nénette. Voilà, c'était très formidable. Beau.
Xavier.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec mes petits camarades. Il faut quand même nuancer un tout petit peu les choses. Le film, dans sa dimension politique, mais on sait que depuis Rogue One, le dernier Guerre des Étoiles, le blockbuster américain se veut politique, se politise, et qu'ils ont encore un tout petit peu de travail à faire pour que le message soit fin, c'est pas toujours d'une grande subtilité. C'est-à-dire que les citations de la guerre du Vietnam, de la Deuxième Guerre mondiale, du facho qui est Trump avec qui veut construire un mur comme Donald Trump, il y a des moments où ils vont un tout petit peu à la serpe, à la louche, c'est pas très subtil. Mais on se dit qu'a priori, comme c'est fait pour
comme
un public...
Y a le spectacle,
mais voilà, comme c'est fait pour un public d'Américains qui va manger du popcorn pendant... Mieux. Oui, 10, il faut mieux asséner le message plutôt qu'effectivement le faire en demi-teinte. Après, moi, ce que je trouve très beau, c'est comment ce film-là commence à raccrocher avec La planète des singes, le roman de Pierre Boulle et le film de Schaffner. C'est-à-dire que les humains sont en train de perdre leur voix. Et là, politiquement, je trouve que ça a une gueule folle dans un pays où Trump a été élu président alors qu'il était minoritaire en voix. Donc, on a perdu des voix. On en a perdu 3 quelque part. Et j'espère qu'il y a une métaphore. J'espère qu'il y a une idée là. Parce qu'en plus, c'est bouleversant. C'est vraiment la manière dont les humains sont en train de perdre leur capacité à dominer par la voix est absolument superbe. Il y a Cornelius qui arrive, qui est le fils de César, qui sera le héros de la planète des singes, qui est ce petit garçon qui voit dans la terreur sa famille décimée, son père partir à la guerre.
Qui est très précoce, hein.
Qui est très précoce. Ah oui, mais il va devenir un grand savant dans la planète des singes, un grand défenseur de la cause humanoïde, on va dire. Et après, bah, il y a la mise en scène de Matt Reeves, ce qui est absolument magnifique. Il vient de l'école de J.J. Abrams, donc il sait ce que c'est qu'un panoramique, il sait ce que c'est qu'un montage, il sait ce que c'est qu'un, une mise en scène, un espace, une profondeur de champ. Et effectivement, on a tous dit, c'est Ford, c'est Peckinpah, c'est au meilleur de ces clins d'œil, ironiques, Apocalypse Now, mais plutôt que de se laisser prendre au piège, il surenchère le clin d'œil et ça en devient effectivement un running guy assez savoureux jusqu'au moment où Woody Harrelson se rase la tête devant comme ça son assemblée de fachos. Donc, mine de rien, c'est un blockbuster intelligent, pas toujours très fin, mais je suis ravi des cibles qu'il cherche à atteindre. Et esthétiquement,
quoi,
formellement,
le masque
magnifique.
Et la plume, on nous reproche parfois de ne pas aimer les films populaires.
Mais c'est pour ça qu'il faut les inscrire, parce qu'il y a régulièrement de très bonnes surprises.
Mais voilà, n'importe quoi. Et bien voilà, le masque et la plume, le 6 août 2017, aura dit le plus grand bien, et à juste titre, de la planète des singes. Suprématie, on parlait donc de SF, évidemment Valériane et la cité des 1000 planètes, c'est le film de Luc Besson, librement adapté de la BD de Pierre Christinet et Jean-Claude Mézières, les créateurs de ces deux agents spatio-temporels, Valériane, c'est Dan DeHaan, et Laureline, c'est Cara Delevingne, missionnée par quoi, le pouvoir, le ministre de la Défense, pour effectuer en 2740 des missions à bord de leur vaisseau. L'aventure va les mener sur la station orbitale Alpha, peuplée de 17 millions d'individus représentant toutes les civilisations présentes dans l'univers. Et ils vont devoir identifier, ça c'était à peu près imaginable, la menace qui met en péril non seulement Alpha, mais aussi tout l'univers. Le film est sorti aux États-Unis avant la France. C'est un phénomène, je crois que c'était un cas unique. C'est une semaine avant nous. Et ça marque le retour de Besson au Space Opera 20 ans, exactement après le cinquième élément. Avec un budget intergalactique, 197 millions d'euros et une distribution sidérale, puisqu'on croise Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, mais aussi
Alain Chabat,
Benoît Jacquot, Xavier Jeannelly, Gérard Kravzik, Éric Rochant et même Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Non, vous n'avez pas reconnu. Très différent de la SF de Matt Reeves, Éric.
Mais il a quel âge, votre Luc Besson?
Comment ça, notre Luc Besson?
Il a quel âge?
C'est un argument.
Mais si, là, je comprends pas.
Mais si, il a 60 ans.
58 ans.
Une chose est sûre, il ne les fait pas. C'est quand on voit le film, c'est vraiment une cour de récréation. C'est insensé. Ça fait penser au mot de Céline sur les surréalistes. Ce sont des crétins qui se prennent pour des fous. Et là, c'est exactement, c'est un film d'un vide intersidéral. C'est fascinant à observer d'ailleurs. C'est laid, la première séquence là sur une espèce de lagon avec des grandes algues molles vaguement transparentes. On a l'impression qu'il va y avoir du gel douche qui va couler. Et ensuite, c'est censé se passer dans 400 ans.
2740.
Ah ben, on écoute toujours les Bee Gees, du reggae.
Mais étrangement, pas le masque et la plume.
Pas le masque et la plume, ouais.
On se demande pourquoi.
Ouais, c'est bizarre. Et tout est raté. On a l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois. Les bestioles, elles sortent toutes de Star Wars, plus ou moins, mais paraît-il à la décharge de Luc Besson, Lucas aurait piqué tout Valérian, toute la BD, et il ne l'a jamais reconnu. Du coup, le film de Luc Besson arrive 30 ans trop tard. Et on passe son temps à se dire quel plagiat, alors que à l'origine, c'est Valérian qui avait tout initié. Mais c'est un amoncellement de scènes qui ne servent à rien. Il y a Rayana qui fait un numéro dans une boîte de nuit, mais on se demande à quoi ça sert. Shabba qui pilote un sous-marin au milieu de monstres. Ça sert strictement à rien non plus. Bah,
vu le budget du film, ils ont dû être très très bien payés.
Les monstres, j'espère, oui.
Non, je parlais des réalisateurs.
Et le problème majeur, c'est cet acteur. Elle est mauvaise. Mais à côté, c'est Greta Garbo. Mais lui, il a deux expressions, le type. Il écarquille les yeux ou il ouvre la bouche. Et puis quand il se passe quelque chose, il fait les deux en même temps. Alors là, il se dit, je vais avoir l'Oscar. Ah non, mais c'est sidérant, ce film. Même Ethan Hawke, en patron de discothèque, est mauvais comme un cochon. Clive Owen, qui fait le méchant en uniforme kaki. Mais on a honte pour lui. D'ailleurs, on sent qu'il se cache et il prend son chèque discrètement. Il dit, c'est en euros, ne le répétez pas. C'est sorti aux États-Unis avant la France, mais moi, je suis sorti du film avant les Américains.
Xavier ?
Eh bien, moi, je ne déteste pas Valérian.
Moi, je l'ai dit à l'américaine, c'est vrai, Valériane.
Valériane ou Valérian, ouais, moi, je le dis à la française. On peut pas me soupçonner de quoi que ce soit par rapport à Luc Besson, parce qu'il me semble que son dernier film, Lucie, je crois avoir été le seul...
Qui était une catastrophe.
Qui était une horreur absolue, mais absolue, paresseux, réac, vraiment très douteux. Et il a vraiment joué avec quelqu'un qui n'a qu'une seule expression, ce qui est Scarlett Johansson. Il n'en a même pas deux. Donc, Valérian, moi, je me suis amusé. Alors, je l'ai pris pour ce que c'est-à-dire l'objet d'un gamin qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas vieillir. Et là, je me retrouve un tout petit peu, parce que je n'ai pas tout à fait l'âge de Luc Besson, mais j'avoue encore aimer beaucoup Les Mignons et Bob l'Éponge.
Bob l'Éponge, bien sûr.
Je le situe au sommet de cette pyramide. Donc, je connais le côté gourmand de la régression. C'est un hommage à la SF humaine des années 70, psychédélique. Alors évidemment, c'est très criard, c'est très fluo, c'est très psyché, je l'ai déjà dit, mais je me suis amusé comme on s'amuse à un épisode du Docteur Who. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi, mais un n'importe quoi assumé, extrêmement amusant. Je trouve la scène d'ouverture assez belle, où on part d'une image 35 vieillotte des années 60 pour agrandir peu à peu le cadre et imaginer que la découverte de l'espace n'est pas une menace, mais au contraire une possibilité de créer une grande pacification, non seulement de la Terre, mais de tous les univers. Il a quand même un sens du cinéma. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas Luc Besson, ça je peux tout à fait l'entendre, je m'en fous. Mais c'est quelqu'un qui ne sauve pas son film au montage. C'est pas Transformers comme on en parlait il y a un mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre caméras sur le
tournage. Mais tu vois qu'il y avait plus d'idées pour le coup dans le cinquième élément.
Mais le cinquième élément était déjà de toute façon une évocation assez précise et assez directe de Valérian. Mais là je trouve que la planète par exemple qu'il construit, qui est faite d'un magma comme ça, de pays, de un ripage, je perds mes moyens, d'espèces venues du monde entier, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule et c'est quelqu'un qui sait mettre en scène. On peut ne pas aimer son style et sa patte, mais c'est quelqu'un qui, dès le départ, sait comment il va tourner, comment il va appréhender les espaces, comment il va jouer justement des labyrinthes. Il y a quand même un marché, il y a une scène absolument formidable, ils sont tous les deux dans un marché virtuel qu'on ne perçoit qu'en mettant des lunettes. Donc il va jouer constamment pendant près de 10 minutes entre l'absence totale de décors et une profusion de décors virtuels, jouant lui-même d'ailleurs de ces effets spéciaux qu'on dénonce. Et je trouve que, mine de rien, la scène a plutôt de la gueule. Alors, c'est du Besson, c'est naïf, c'est candide, l'humour est pas toujours très fin, parfois un peu balourd. Les comédiens sont absolument pas formidables, nous sommes d'accord. Mais en termes de souffle, je suis désolé.
Je pense que c'est ton côté Fraise Tagada, ça, un peu.
Ah, mais c'est mon côté Docteur Who. Ça, moi, je l'assume.
Non, moi, je suis pas d'accord avec toi, Xavier. Je trouve que, contrairement à toi, je trouve que Besson est peut-être un grand entrepreneur, et je trouve qu'il n'a aucun regard original sur le cinéma. Je trouve qu'il ne sait pas raconter une histoire de manière personnelle.
J'ai pas dit qu'il avait un regard original. J'ai dit qu'il avait.
Tu as dit que c'était quand même un metteur en scène et que.
C'est quand même quelqu'un qui sait mettre en scène.
Moi, je trouve qu'il ne sait pas raconter une histoire d'un point de vue personnel. Ce que je lui reproche, c'est pas que tout ce qu'on voit dans le film, on l'a vu partout, déjà, mieux, 1000 fois, que ce soit les créatures, Sylphie, de la petite planète Mule ou
enfin,
Mule,
si c'est Avatar, c'est pas beaucoup
qu'on a vu dans, non mais qu'on a déjà vu dans Avatar, mais c'est même pas ça que je lui reproche, ou ces monstres gluants qu'on a déjà vu dans Buffy et les vampires dans les années 90, hein, c'est exactement les mêmes, mais c'est pas ça que je lui reproche, parce que ça c'est normal, on pille un peu, on regarde ce qui s'est fait avant et c'est normal, mais ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est que dans le stéréotype. tout ne relève que du stéréotype. Donc la vision de la planète paradisiaque, c'est une vision effectivement d'enfant avec un coquillage géant. Mais même les enjeux intimes sont des stéréotypes. Ces jeunes gens qui s'aiment, finalement c'est la fille qui va lui apprendre à aimer, parce que c'est bien connu que les femmes, c'est elles qui sont plus mûres que les hommes. C'est lui qui a un talot de chasse et qui va finalement apprendre par elle ce qu'est l'amour, et à la fin l'amour est plus fort que tout. Enfin, on est dans des stéréotypes. Alors en effet, au bout d'un moment, on est dans un livre d'enfant qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et même les décors, enfin même le paysage, même les effets visuels, c'est décoratif. On n'est jamais dans un univers, on est dans du décoratif. Et moi, je trouve que ce n'est pas suffisant.
Michel a refusé par principe d'aller voir Valérian ou Valériane et la cité des mille planètes, Michel, de Luc Besson. Mais je pense que Positif va en parler le mois prochain.
Oh, certainement, très longuement. Longuement.
Je t'ai gardé pour Song to Song, Michel, du légendaire Terrence Malick, le cinéaste des Moissons du Ciel, un film avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Kate Blanchett, Berenice Marlowe. Et c'est à Austin, Texas, côté scène rock, que Malick croise et entremêle. Pour une histoire d'amour un peu compliquée, je ne vais pas la raconter en détail, deux couples, celui que forment le chanteur BV et Faye, c'est Gosling et Rooney Mara, et celui que forment le producteur de musique Cook et une prof devenue serveuse, c'est Fassbender et Natalie Portman. Mais l'histoire, est-ce qu'elle est vraiment si importante? Tout est plein de poésie, une poésie parfois un peu illuminée, il faut dire, de Maxime, en voix off, genre « je ne savais pas que j'avais une âme, le monde m'embarrassait », où les oiseaux dans le ciel ont dit qu'on s'aimerait toujours. Beaucoup de digressions sur la matière. Ô combien difficile, c'est vrai, de concilier son métier et ses amours. Song to Song, tu as beaucoup aimé.
Moi, j'aime énormément ce film. Et je ne cache pas qu'il y aura des gens qui vont trouver le film sublime et d'autres qui vont trouver ça horripilant. Parce que c'est un film extrêmement radical. C'est-à-dire qu'à partir de Tree of Life, qui est un film charnière,
oui, absolument,
où on trouve déjà, on retrouve l'ancien Malick avec une histoire, etc. Mais déjà le cinéaste lyrique à la Walt Whitman ou à la William Blake qu'il va devenir, où depuis trois films, il a supprimé toute intrigue, toute narration. Et moi, ça ne me gêne pas. C'est vrai que la majorité des films aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, depuis la naissance du cinéma, racontent des histoires. Et on n'admet pas qu'un cinéaste soit... Si, on l'admet. C'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a une certaine tendance de la critique française qui va s'extasier, par exemple, sur un film argentin où quelqu'un coupe du bois pendant 45 minutes. Ou sur un film slovène où tout le monde est dans l'obscurité pendant trois quarts d'heure. C'est étrange, mais dès que c'est américain...
C'est de mauvaise foi, mais
c'est
pas...
Non, non, c'est pas de mauvaise foi.
Oh, si,
mais dès que c'est un film américain avec Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman et Kate Blanchett, on s'attend à avoir de l'action, de l'amour, des vrais sentiments, de la psychologie, etc. Il n'a rien de tout cela. Mais on n'a pas le droit, quand on est Terrence Malick, de faire ce genre d'expérience. C'est-à-dire, c'est du Virginia Woolf. C'est-à-dire, c'est un courant de conscience avec une voix off. Ce sont des états poétiques.
2h08.
Oui, 2h08, mais ça pourrait durer 3h. Mais 2h08, c'est rien du tout par rapport. Il y a beaucoup de films qui font 4h ou 3h. C'est pas ça le problème. Mais c'est un film lyrique, c'est une offrande lyrique. Et Malick, je ne suis pas croyant, mais Malick est un croyant et il pense que l'existence de Dieu se trouve dans la nature et se trouve dans le corps, en particulier le corps des femmes. Donc c'est une exaltation du monde.
Ça, je suis assez d'accord.
Mais il y a des gens qui détestent Peggy, par exemple, d'autres qui détestent Claudel. Je peux comprendre. Peggy, les gens disent, mais c'est répétitif, c'est toujours les mêmes quatrains, il y en a pour 450 pages, etc. D'autres qui trouvent Peggy magnifique. Ce film est une expérience exceptionnelle. Certains en sortiront transfigurés et d'autres partiront au bout de 20 minutes.
Xavier, c'est pas très frais, Stagada, le Malick.
Ah non, ah, ça, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est pas très frais, Stagada. On reproche à Besson ses archétypes et ses stéréotypes. Évidemment, on ne dira pas la même chose, puisque c'est Terrence Malick. Mais alors, pourtant, de l'archétype et du stéréotype, il y en a à foison. Et on ne peut pas dire que le temps qu'il laisse à ses comédiens pour développer les personnages et le temps qu'il a pris lui-même pour les écrire soit très utile, justement, à ce que les stéréotypes ou les archétypes soient dépassés. C'est-à-dire qu'on a quand même un producteur de disques nécessairement véreux, qui finira nécessairement, bien évidemment, par truander le jeune chanteur qu'il a pris sous son aile. On a le jeune chanteur naïf.
Mais non, ne fais pas ce qu'il a déconstruit. Tu refais un film qu'il n'a pas voulu faire.
Attends, non, t'inquiète pas, je vais te le déconstruire, ton film, t'es un poète long, Michel. Laisse-moi juste poser les bases et puis après j'attaque. Ne t'inquiète pas, parce que c'est quand même construit comme une pub. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, on a donc parmi les archétypes le jeune chanteur plein de scrupules, d'ambition, de naïveté, qui finira par se faire avoir, mais qui au dernier moment, heureusement, freinera des quatre fers et retrouvera sa candeur. Nous avons la jeune serveuse qui est anciennement institutrice, ruinée. Oh, ça c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau. Et ces personnages-là ne bougent pas, ils sont envoyés sur une espèce de terrain de jeu où ils n'ont rien à faire. On a l'impression Malix, mais savoure le fait de leur dire vous improvisez, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent autour des piscines, ils sautent dans l'eau, ils traversent en faisant des triples saltos arrière, ils tournent sur eux-mêmes, ils frottent énormément leurs doigts sur les murs. Je ne sais pas, ils ont un problème d'empreinte digitale. Ils veulent disparaître comme les gens de la mafia, donc ils passent leur temps comme ça à frotter. Ils courent, les filles, on voit des voiles en l'air, les récupèrent et c'est magnifique. Et alors on s'en fout comme de l'entendre, l'industrie du disque, puisque c'est son sujet. Construit et déconstruit, Austin. Mais c'est des clichés qui ont 50 ans d'âge, qui n'existent même plus. Enfin, je veux dire, on fait des parties et des partouzes autour des piscines, on drague les nanas, on arrache les conquêtes aux bras de ses copains, puis finalement on les jette aussi, et elles finissent par ne plus en revenir. Enfin, mais c'est consternant de vide, et il y a des moments, effectivement, entre les aphorismes qu'on entend en voix off, qui ressemblent à des publicités. Ah,
ça, la voix off est très dure à supporter tout au long du film.
Mais c'est exactement les mêmes slogans que pour une publicité Groupama ou Gann. Assurance, protéger ce que vous aimez, aimer est-il aimé, ou est-il aimé de ne pas aimer, enfin, mais on s'en fout, bonhomme, sors dans la rue, par pitié, on est en 2017, arrête de rester cloîtré chez toi pour écrire des films de gens que tu ne côtoieras jamais, mais vie, respire, c'est des films désincarnés, c'est des films qui n'ont même pas la beauté du geste esthétique, parce qu'il est gratuit, parce qu'il est vain, parce qu'il est répétitif. Donc non, on ne peut pas dire aux gens d'y aller, même pour la curiosité artistique, parce que c'est une arnaque, quand même.
Eric ?
Non, faut pas que les gens y aillent. Et surtout les gens qui aimaient Malick, là, moi je lui en veux
beaucoup.
Voilà. Je lui en veux beaucoup.
Moi, j'ai toujours aimé Malick.
Oui, mais moi maintenant je ne peux plus voir ses anciens films sans déceler toutes les âneries qu'il y avait déjà dedans. Et il n'y a plus que ça maintenant. Tout ce qui était trouvaille est devenu de la manière.
C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de mains dans les blés, comme ça, dans
les herbes de revoilà,
Jérôme. Ils passent leur temps à caresser l'herbe.
Il se fait un sépulcre avec ce film. On ne voit plus que ce qui clochait dans c'est l'arbre de vide, ce film. Il n'y a plus que ça. C'est l'industrie du disque, mais le disque est rayé. Tout le monde trottine, sautille, chuchote. C'est aberrant. La caméra est toujours de travers. Il y a des sentences.
Elle est très populaire.
Ah oui. Alors, on oscille entre les publicités pour Hollywood Chewing Gum avec des jeunes qui vont dans des rave parties, qui sautent dessus. Et puis, il y a le côté agent immobilier qu'il y a toujours chez Malick. Alors, vous avez le duplex avec vue sur la ville. Sinon, il y a la maison à la campagne avec grande piscine, très belle. Parce qu'il y a le tic des piscines chez lui. Il y en a partout maintenant. Il y a des piscines et des rideaux. Bientôt, il y aura des rideaux de douche, je pense. Et c'est une tristesse de voir ce qu'est devenu ce type. Tu as raison, Xavier. Il faut qu'il reste cloîtré chez lui, mais sans écrire, sans rien faire. Qu'il revienne dans 20 ans, comme il avait fait à une époque. Et c'est... On a envie, à un moment donné, on voit Patti Smith, Johnny Saunders et Val Kilmer qui joue une espèce de vache limousine peroxydée qui chante et qui découpe les haut-parleurs à la tronçonneuse. Mais c'est ce qu'on a envie de faire quand on voit le film. On a envie d'attraper une tronçonneuse et de chercher Malick dans tous les États-Unis pour le découper en rondelles.
Sophie.
Non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je trouve
le film.
Et
seul Dieu peut te pardonner, comme dira Gosling.
Et j'aime ses premiers films.
On peut pas même paraître aujourd'hui défendre un film de Malick et paraître complètement un débile mental.
Non, mais ça me gêne pas d'ailleurs.
On a même le droit de défendre Malick et de pas être surpris. Il y a des gens qui adorent ces films. On a fait une avant-première de ce film. Il y a beaucoup de gens qui étaient bouleversés.
Tu nous engueules parce qu'on n'aime pas, mais on t'a pas engueulé parce que t'aimes.
Bon, en tout cas, je l'aime, ce film-là. J'aime Terrence Malick. J'aime ce vieux cinéaste qui est obsessionnel, qui a laissé tomber cette première partie de sa carrière qui est en effet était magnifique et qui est toujours magnifique et que j'aime toujours et même quand je l'ai revu, et j'ai revu La Balade Sauvage il n'y a pas longtemps et c'est toujours aussi sublime et j'aime cette idée qu'il est remis tout en bazar comme ça en déconstruisant tout parce qu'il est à la recherche d'une seule chose qui est de traduire le mystère de la vie dans ce qu'on ne peut pas retenir le temps et que tout est mouvement et que alors ça peut paraître naïf, moi ça me paraît très intéressant, ça me paraît la question fondamentale, le temps et comment exprimer ça au cinéma, on ne peut partir le temps, on n'est que mouvement, tout n'est que mouvement. Il y a une scène très belle d'ailleurs dans le film où les personnages essaient de jouer avec des astronautes et essaient de s'affranchir comme ça de la gravité. Il y a une espèce de volonté de s'affranchir de ce qui fait la gravité de la vie. Et en même temps, il nous dit, mais la vie, ce n'est que de la gravité. Ce n'est que ça. Et on a beau faire, on n'y arrive pas. Et en même temps, ces comédiens sont des comédiens aériens, dansants. Ils caressent peut-être les herbes ou ils passent leurs doigts sur les murs, mais ils font aussi beaucoup l'amour. C'est aussi des choses qui sont, que je sache, de la vie. Et ça, tu ne le dis pas.
Mais tu y crois quand ils font l'amour?
Mais oui, j'y crois, oui, énormément.
Comme
énormément.
Pour une publicité, pour un préservatif.
Mais Claude Lelouch, je le dis sans
poids mieux, c'est une modeste
de soeur avec le chou jamais décoiffé, quoi.
Là où tu as raison, c'est que c'est peut-être des clichés comme chez Besson, mais c'est les stéréotypes. C'est pas forcément. C'est vrai des stéréotypes. C'est pas parce que c'est faux qu'on n'aime pas les stéréotypes. C'est parce que c'est rebattu. Or là, justement, il prend un stéréotype. Et effectivement, il prend les stéréotypes. Mais comme il ne les rebat pas de la même manière et qu'il les remet en déconstruction avec des voix intérieures, il en fait quelque chose de sensoriel, de puissant, de fort. Alors, il y a peut-être 20 minutes de trop, mais c'est un film qui...
Oui, mais on ne sait jamais lesquels.
C'est quand même un film... T'as qu'à arriver en retard. Vous arrivez en retard, comme ça, vous verrez le... Non, c'est pas un film qu'on peut traiter comme ça, par-dessus l'épaule.
Bravo, Sophie. Song to Song. Merci. De Terrence Malick. Même longueur pour le film d'Emir Kusturica, On the Milky Road, 2h05, disons un peu moins. Kusturica qui ne décolère toujours pas de n'avoir pas pu présenter son film à Cannes. Un film où il interprète un type qui livre du lait aux militaires dans un pays en guerre, l'ex-Yougoslavie bien sûr, et traverse les lignes de front sur son âne. Il rencontre une réfugiée italienne, Nevesta. Quand on rencontre d'ailleurs une réfugiée italienne, c'est forcément Monica Bellucci. Et il s'enfuit avec elle alors qu'elle est traquée par les forces spéciales envoyées par un de ses ex. Bon, la suite, je ne vais pas vous la raconter en détail. Il y a des aventures... Comment on dit, rocambolesque, c'est ça? avec attaque d'un gros serpent qui aime beaucoup le lait. Il y a une pluie de bombes, champ de mines. Contrairement à beaucoup d'entre vous, moi j'aimais bien le Kusturica de ça du début, enfin des temps des gitans, d'underground. J'ai trouvé ça totalement affligeant et sans même reconnaître le Kusturica de ça que j'avais pu, maintenant il y a un petit bout de temps quand même, beaucoup aimé Michel.
Oui, c'est une grosse déception. Enfin, c'est vrai que le précédent film de Kusturica n'était pas encourageant. Non. Moi, j'ai aussi, comme toi, une grande admiration pour ses films. C'est un très grand cinéaste. Dès la Palme d'Or, là, Papa est en... C'est pas Papa...
Papa non,
est
c'est... en... Papa est en...
C'était magnifique, Chat Noir, Chat Blanc, Underground. Bon, c'est un grand cinéaste. Ici, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui est dans une impasse. C'est régressif. Il retourne en arrière pour essayer de retrouver son cinéma et il n'y arrive pas. C'est-à-dire, c'est d'abord cette histoire d'amour de ce laitier amoureux de cette italienne est complètement saugrenue. Il y a la basse-cour. On aimerait qu'il quitte les basses-cours pour vers les hautes-cours parce que là, c'est vraiment les chiens, les chats, les serpents, les chèvres. Enfin, il y a tout le bestiaire. Mais le film est vraiment extrêmement décevant, répétitif, foutraque. Vraiment, c'est l'ombre de lui-même. Incontestablement, c'est un film de Kusturica. Mais là où Fellini, par exemple, arrivait, puisque c'est la grande admiration de Kusturica, c'est Fellini, là où Fellini parvenait à se renouveler constamment en trouvant des provas d'orchestra ou à Marcord, dans des films qui étaient différents de la Dolce Vita, c'est autre chose. C'était toujours Fellini, mais c'était autre chose. Là, on est vraiment dans une parodie de lui-même.
Eric,
c'est un peu le contraire de Malick. Là, c'est que du trop-plein. C'est pas une seconde de silence. Alors, faut y aller avec.
Ça toujours, j'ai
oui, mais là, maintenant, on a envie d'y aller avec des boules qui est, hein, parce que... Et puis, au bout d'un moment, on se dit qu'il faudrait aussi le masque, là, comme dans les avions, là, pour pas voir la lumière, parce que c'est un film complètement raté, bête, démodé. Alors, il y a une qualité, c'est qu'il joue dedans. Et comme il est galant, il se débrouille pour jouer encore plus mal que Monica Bellucci, ce qui est pas une mince affaire. Et il est très beau, il a une belle gueule, mais il est pas fait pour ça, visiblement. Les animaux jouent pas mal. Il y a les oies qui sont un peu cabotines à force de sauter dans une baignoire de sang. Ça, on y a droit 15 fois d'affilée. Il a trouvé ça. Le serpent qui va boire du lait. Alors, on se demande si ça va devenir du roquefort, de cobra ou pas. On sait pas du tout. Et il y a une horloge folle qui passe son temps à se démolir. Mais c'est un film saoulant et pas du tout énivrant. Ça ne raconte rien. Il y a un borgne, il y a une gymnaste qui se déhanche sur Flashdance. C'est n'importe quoi. Et c'est un n'importe quoi pas drôle du tout. interminable. Et je sais qu'à un moment donné, Kusturica avait dit qu'il arrêtait le cinéma. Il a recommencé à cause du Jour et la Nuit de BHL. Bah, je crois que je préfère revoir le Jour et la Nuit plutôt non, que On the Milky Road.
N'exagérons rien.
Et Monica Bellucci est incroyablement sans emploi. Quoi. Il y a quelque chose... Elle n'a pas toujours été mauvaise.
Hein, non, non. Bah, oui, mais là,
il a peut-être fait le film pour séduire Monica Bellucci. Oui,
c'est un bon prétexte. J'espère qu'il a réussi.
On a l'impression d'une séduction réelle. Entre Mais je trouve que même la façon dont il...
Ah oui, ça, il la drague, ça, c'est clair.
Oui, on sent. Non, mais bon, c'est beau la façon dont il la regarde, d'ailleurs. Mais malheureusement, effectivement, moi, je suis d'accord, le film est raté. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'il a conscience du naufrage et qu'au lieu de mettre tout ça un peu en douce, il fait au clairon, au contraire, comme il a toujours fait, mais encore plus. C'est-à-dire qu'il rajoute du carburant, il est en surchauffe. Du coup, le film devient extrêmement boursouflé. Et même la façon dont il a de présenter Monica Bellucci dans ce personnage de femme émue par ce film de culte qui est Quand passent les cigognes et qui pleure, ça devrait être bouleversant, mais ça l'est pas du tout. Il n'y a plus d'âme. On a l'impression que l'âme s'est évanouie de son univers. Moi, j'étais pas une fanatique de Kusturica, mais effectivement, j'aimais les premiers films. Il avait surtout une liberté de ton. Et là, la liberté s'est retournée contre lui. Et on a l'impression que c'est que des contraintes et que des artifices, quoi. Donc, il n'y a plus de liberté du tout. Et ce qu'on aimait chez lui à l'époque, c'est retourné contre lui. En effet, c'est une parodie de lui-même, quoi. C'est triste.
Et encore une fois, son grand rêve était que ce film-là soit au Festival de Cannes.
Ah oui, mais il n'a pas été pris.
Compétition officielle. Xavier, tu as aimé le Kusturica de ça?
Il y a parfois de très mauvais films à Cannes. Je te rappelle Soleil Trompeur 2 de Michael Koff, il y a quelques années, quand même. On en rit encore entre nous quand on évoque
le 2, parce que le premier était très beau.
Oui, mais le 2 était une catastrophe absolue.
Mais il n'est jamais sorti
à juste titre, d'ailleurs. Bon, parenthèse sur les mauvais films qui, malheureusement, parfois se hissent à la compétition cannoise. Ben, on a l'impression qu'il se dit, vous avez aimé ça dans Le Temps des Gitans, vous avez aimé ça dans Chat Blanc, Chat Noir, vous avez aimé ça dans Underground, donc je vais le faire, mais en puissance 10. Donc, effectivement, vous avez aimé mes musiques, et ben, il y aura 50 musiciens à l'écran. Bon, non, pitié, Emmy, on n'entend plus. Enfin, je vais dire, vous avez aimé les coups de feu, la virilité des garçons, comme ça, des Balkans, qui tirent dans tous les sens.
Des garçons serbes,
Ah, les garçons serbes, viril, ça sent la sueur et la barbe pas taillée. Alors, on va tirer dans tous les sens. Quelle crainte avez-vous du silence, monsieur Kusturica? Quelle crainte avez-vous? Vous avez un paysage absolument magnifique, vous ne le filmez pas, vous avez une nature superbe, vous ne l'écoutez pas, vous l'envahissez, un peu à la manière dont les méchants du film envahissent d'ailleurs le petit
village.
Je crois
qu'il a un peu la haine maintenant, il y a quelque chose chez lui.
Maintenant, il a la haine. D'ailleurs, il a une façon
ambiguë,
de filmer la guerre.
Alors,
voilà,
oui, et j'allais y venir, c'est que c'est très douteux la manière dont, une fois encore, il en rajoute une couche nazifiant l'ennemi. Enfin, je veux dire, il y a le napalm, ils sont en noir, c'est très SS quand même dans sa façon de représenter l'ennemi des Serbes. C'est quand même extrêmement douteux. Ils sont pervers, ils rompent le cessez-le-feu. Enfin, je veux dire, en plus, politiquement, le film est comme toujours sur la pente un peu glissante qu'il mène, enfin, sur laquelle il se place depuis quelques années. Et c'est vrai que le film est insupportable, mais vraiment au sens de... On supplierait pour pouvoir sortir tellement il tape sur la tête avec un marteau.
Ça n'en finit pas.
Ça n'en finit pas. Les effets spéciaux du serpent sont extraordinairement ratés. Il faut quand même dire un tout petit peu les choses telles qu'elles sont. Et alors, c'est du coup sur la puissance dite, avec les mariés qui s'envolent, qui sont dans les arbres qui s'enflamment, enfin tout ça. Et à un moment, mais ce n'était pas un problème avec le monde réel, lui aussi. C'est-à-dire que c'est cette façon de saturer, de remplir l'espace pour ne rien dire est quand même un peu éreintant. Et triste pour lui, presque.
Courez voir sur la route du Léon, The Milky Road, le film d'Emir Kusturica. Allez, on va aller un peu plus vite pour les films qui restent. Été 93, j'étais bouleversé par ce film, un premier film qui était primé à Berlin d'une jeune femme catalane qui s'appelle Carla Simone. Et l'histoire, après la mort de ses parents qui ont été victimes l'un et l'autre du sida, une fillette de 6 ans, Frida, est placée chez sa tante et chez son oncle, qui ont déjà une enfant de 4 ans dans la campagne catalane. D'ailleurs, une campagne très verdoyante, c'est pas du tout l'Espagne qu'on peut imaginer. Carla Simone, dont c'est d'ailleurs la vraie histoire, la propre histoire, et sans jamais tomber dans le mélo, montre tout ce qui bouillonne dans la tête d'une petite orpheline à la fois traumatisée et contaminée, c'est-à-dire un mélange de colère, de révolte, de souffrance, de larmes mais qui ne sont jamais, qu'elle ne montre jamais, qui sont toujours retenues, de prières aussi, prières totalement vaines à la Vierge Marie. Et moi, j'y ai moins vu le travail de deuil d'une enfant que presque la renaissance sous nos yeux d'une petite adulte. Alors là, il faut citer son nom, elle s'appelle Laia Artigas, une gamine qui a 6-7 ans, je crois, enfin, elle a l'âge à peu près du rôle, totalement stupéfiante de précocité. Et je rappelle que la réalisatrice Carla Simone est née en 83, donc à l'époque exacte où la transition démocratique en Espagne s'est accompagnée d'une consommation de drogue dont l'héroïne, ce qui fait que, et ça je ne le savais pas, avec 21 000 victimes au début des années 90, l'Espagne est le pays européen qui était le plus frappé par la pandémie. Et donc c'est filmé de manière totalement naturaliste, enfin dans le double sens du terme, à la fois évidemment l'histoire racontée, mais aussi la nature très présente. Et moi j'ai été mais scotché par ce film,
Oui, moi j'aime beaucoup le film, tu as raison, il est beau. Il faut parler aussi de la deuxième petite fille
qui est 4 ans
et qui est elle la vraie fille, la fille biologique des parents qui vont adopter la première.
Qui est la cousine donc.
Et qui est la cousine, voilà, et qui est une toute petite fille absolument géniale parce que pour une fois, enfin, on a l'impression qu'elle prend le temps, Carla Simone, de voir vivre les enfants réellement avec même des. Moi, je trouve que ça, le cinéma manque de scènes inutiles. Faire des scènes, par exemple, au cinéma, quand on voit quelqu'un tousser dans un film, on peut être sûr que le personnage, il va avoir une pleurésie ou qu'il va avoir un cancer. Bon, alors que dans la vie, on tousse et on n'a pas forcément un cancer du poumon. Là, au contraire, elle laisse filmer, elle laisse sa caméra filmer ses enfants en train de jouer. Donc, il y a des scènes, entre guillemets, inutiles, mais qui font tout le prix de ce. Je trouve qu'elle sait regarder jouer ses enfants. Je dis inutiles, je veux pas dire qu'elles ne devraient pas être là. Je veux dire simplement, c'est des films de vie. C'est juste des films justes, des scènes justes, des scènes où se passent des choses. Par exemple, à un moment donné, la petite fille dit, et ce séchoir à cheveux, si je le mets dans le bain, est-ce que ça va électrocuter quelqu'un? Dans n'importe quel autre film, la scène serait suivie d'un effet quelconque. Elle utiliserait ça.
De Claude François.
Là. Oh, c'est dingue.
Là. Eh bien, là, il n'y a pas du Claude François. Là, je veux dire, c'est des réflexions d'enfants qui sont faites, mais qui ne sont pas suivies. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis très fasciné par les petits détails. Tu vois, les grands-parents arrivent, qui sont les grands-parents de l'époque franquiste, à la fois très catho, un peu psychorigide quand même, quand ils débarquent, et ils sont bouleversés par leur petite fille. C'est des scènes que je trouve, la scène de l'école. Tout d'un coup, elle se blesse, elle a un peu de sang qui coule. Les autres gamines courent et les parents arrivent en disant surtout il faut pas toucher la petite Frida. Donc chaque fois c'est des petites scènes.
Oui, mais ça tu vois, je trouve que pour le coup,
juste.
Oui, mais alors ça pour le coup, j'ai trouvé ça un peu forcé, tu vois, parce que je préfère quand elle regarde. Bon oui, pour
Michel.
Oui, c'est un très beau film, c'est une vraie révélation. Le cinéma espagnol sait traiter de l'enfance. On rappelle de Cría Cuervos ou L'Esprit de la Ruche.
On y pense d'ailleurs parfois.
L'Esprit de la Ruche de Victor Erice. Donc c'est un film magnifique parce que c'est la reconstitution d'une famille. Comment un oncle devient un père, comment une tante devient une mère, comment une cousine devient une sœur. C'est la reconstitution de cette famille avec une absence, comme tu l'as dit, de tout sentimentalisme, de toute complaisance, comme ça aurait pu être le cas. Et puis aussi ce côté politique, c'est-à-dire effectivement l'ancienne Espagne, représentée par cette femme, cette grand-mère en costume noir, etc., catho et tout, et puis la nouvelle génération. Donc il y a beaucoup de commentaires qui sont faits, mais d'une façon extrêmement subtile, sans aucune démonstration. C'était la Caméra d'Or à Berlin, le meilleur premier film du festival, et je pense que c'est une date.
Eric.
Un très beau film, oui. Puis ce qui est bien, en plus, c'est tout le côté rural qu'on voit, la campagne qui existe vraiment, on sent la chaleur, l'ennui aussi, tu as raison. Parce que à cet âge-là, à 8 ans, les vacances à la campagne avec des gens qu'elle connaît pas vraiment, son oncle et sa tante, et elle a un œil vraiment très très aigu sur la cruauté des enfants entre eux, parce qu'elle l'aime beaucoup sa petite cousine, mais en même temps,
elle la
martyrise un peu. Elle aimerait bien qu'elle monte dans un arbre, qu'elle se casse la figure. Et ça, c'est très très juste, parce qu'une cour de récréation à la maternelle, c'est pire qu'un QHS, côté violence. Et là, il y a ça, cette pauvre gamine qui est perdue là, qui sent le temps passer, qui a envie de fuguer, et ces gens qui l'aiment beaucoup, mais qui voient que leur petite fille à eux est un petit peu en danger. Et c'est un film mais très très réussi, très sensible, et qu'il faut absolument voir en cet été 2017.
Xavier.
Bon, je suis entièrement d'accord. C'est un film remarquablement équilibré parce que plutôt que de mettre les sujets principaux en avant, la séropositivité, la perte des parents.
On ne le comprend qu'à la fin. Ouais.
On ne le comprend qu'à défaut et c'est
la
très beau.
C'est
un film qui est complètement dans l'humeur de cette petite fille qui pleure, qui rit, qui se casse la gueule, qui s'ennuie, qui trouve une idée de jeu. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'elle s'est blessée. On comprend que le sang pourrait être contaminé. Et puis à un moment, elle va faire une prise de sang. Et puis derrière, elle va manger une glace avec sa tante. Elle va s'engueuler avec sa tante. Elle va avoir la perversité de se dire, c'est pas mes parents, il faut que je me fasse énormément aimé d'eux, peut-être même quitte à escamoter leur vraie fille parce que j'ai besoin de cette affection-là. Elle est dans la rage, elle est dans la séduction, elle est dans la répulsion, elle est dans l'attendrissement, mais elle n'est jamais dans le pathos et le film n'est jamais là à ce niveau-là. Et je pense que la grande réussite de la réalisatrice, c'est un film sur elle, mais sur elle enfant, et elle a retrouvé directement par le cinéma ce vecteur à son enfance, à ce qu'elle a traversé. C'est juste magnifique et bouleversant. Et en filigrane, ça rappelle la panique
Quand le sida est arrivé, on ne savait pas si on pouvait boire dans les mêmes verres, manger dans les mêmes assiettes et tout ça. Et c'est jamais dans le pathos, mais c'est exactement là où ça doit être. Et Sophie a tout à fait raison, autant que Jérôme. C'est à la fois des scènes qui ne servent à rien sur la dramaturgie, mais qui révèlent énormément du personnage. Et quand il faut poser le sujet, elles sont remarquablement disposées dans le scénario et remarquablement écrites, parce que jamais surécrites, justement.
1h34, donc c'est vraiment rapide. Été 93, très beau premier film conseillé par l'ensemble du masque de la jeune Carla Simone avec Laïa Artigas, une petite qui a des, parfois un visage d'adulte. C'est incroyable. Allez, très rapidement, parce que maintenant le temps passe vite. Est-ce qu'il faut, selon vous, aller voir ou pas cette deuxième version, finalement, de l'adaptation du roman de Daphné du Maurier, Ma cousine Rachel, de Roger Mitchell, avec une distribution Petits Oignons, Rachel Weisz, Sam Claflin et quelques autres. L'histoire dans l'Angleterre, vous le savez, du 19e, d'un jeune noble, Philippe Ashley, qui apprend le mariage en Italie de son cher cousin Ambroise, avec une veuve un peu douteuse. Puis un jour, Philippe, il reçoit une lettre d'Ambroise qui lui dit « Ben, ma femme est en train de m'empoisonner, manque de peau. » Et ben, Ambroise meurt et Philippe va tomber totalement amoureux de la veuve. Mais vraiment rapidement, on y va, on n'y va pas.
Oh non, on n'y va pas. C'est vraiment une adaptation très scrupuleuse et c'est plutôt un travail de chef op et de chef décorateur. Il manque tout. Il manque la perversité, il manque le rapport de force.
C'est propre sur soi.
Hein. Ah, c'est magnifique, ouais, c'est propre sur soi. Ça, je veux dire, chaque robe et chaque tasse à thé est estampillée d'époque. Mais c'est pas ça qu'il fallait filmer, à mon sens.
Eric.
L'héroïne essaie d'empoisonner ses maris successifs avec des infusions, mais le film est une vraie tisane. Hein. Une tisane verte, parce qu'il y a de l'herbe sans arrêt, des chevauchées. Rachel Weisz s'est fait la tête de la Joconde avec une voilette de deuil. Non, c'est un film en poulet, propre, et puis sans intérêt. Vaut mieux revoir pour une histoire d'empoisonnement, soupçon de Hitchcock.
Alors moi, j'ai pas revu, en revanche, la version avec Olivia de Havilland et Richard Burton, qui date du début des années 50. Tu l'avais vu
Richard Burton. Il y a très longtemps, ouais. Oui. Non, je trouve vous êtes un peu sévère. C'est-à-dire, effectivement, c'est le cinéma anglais dans ce qu'il a de plus bien confectionné. Mais tout de même, ce qui est intéressant, c'est le personnage de Rachel Weisz, qui est d'ailleurs excellente. Est-ce que c'est une héroïne exaltée ou une empoisonneuse machiavélique? On ne le saura pas. Parce que le film reste dans une ambiguïté qui fait l'intérêt du film. La faiblesse du film, c'est l'interprète principal, masculin, qui est totalement insipide, très terne.
Pourtant, c'est un bon rôle, hein.
Mais oui, c'est un mais en tout cas, le film, pour les gens qui aiment ce genre de costume, film à costume anglais, on va pas l'écraser avec Rebecca, puisque c'est aussi une adaptation de Daphné du Maurier. Hitchcock, c'est un peu écrasant. Néanmoins, le film n'est pas détestable, mais il faut savoir ce qu'on va voir.
Non, mais alors là, moi, je suis pas une Sophie. Avec toi, Michel, parce que je trouve que c'est justement d'avoir voulu tenir.
Tu divorces de Michel?
Oui, juste là pour la fin de l'émission. D'avoir voulu tenir absolument l'ambiguïté du personnage, je trouve que l'adaptation est très ratée, parce que du coup, le film joue beaucoup trop avec l'attente des spectateurs. Il ne pense qu'à ça, et ça fait que le film va d'un côté, il va de l'autre, et il se tire des balles dans le pied, et ensuite il veut nous surprendre. En fait, tu vois, il a sans arrêt comme ça un jeu avec le spectateur, avec les attentes supposées du spectateur, qui fait que le film ne se détermine jamais, et je trouve que ça lui nuit au contraire beaucoup. Je trouve que le film est très boiteux à cause de ça.
Alors j'avais inscrit, donc ça c'est ma cousine Rachel, de Roger Mitchell, j'avais inscrit également le cercle, alors là, avec Emma Watson, Tom Hanks, Bill Paxton, John Boyega, etc. Un film de James Ponsold, d'après le roman de Dave Eggers, un roman futuriste sur un énorme groupe de nouvelles technologies, un fournisseur d'accès à Internet, avec dans le rôle du patron dans le film Tom Hanks, quasiment méconnaissable, et qui pénètre donc la vie privée des gens.
Un monde à la Big Brother.
Je vois pas tellement l'intérêt.
Non, il a aucun intérêt, d'autant Sophie. Qu'il y a un personnage très important dans le film qui serait le personnage de celui qui a inventé le logiciel, hein, ouais, qui est le personnage de Taille, et qui disparaît complètement, qui est expédié du film. On se demande pourquoi. Si bien que ce personnage d'Emma Thompson qui rentre dans cette firme, qui est récalcitrante au début et qui tout à coup bascule, on ne peut pas révéler la fin, mais qui bascule et on va voir pourquoi, le film ne va pas jusqu'au bout de son truc, élimine Taille, et du coup, ça ne veut plus rien dire. C'est une critique qui n'en est plus une, quoi. Enfin, c'est vraiment très curieux. C'est pas clair dans la tête du cinéaste, quoi.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie. On a l'impression que du roman de Dave Eggers, ils ont voulu faire un blockbuster pour jeunes filles révoltées comme Hunger Games ou Divergente. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est au détriment de toute la complexité.
Il y a aucune polémique.
Mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle découvre un monde qu'on savait dès le départ de toute façon déjà très anxiogène et très liberticide. Elle joue la naïve, elle grimpe les échelons, elle s'aperçoit qu'elle était trop loin et on termine par une femme moralisatrice. Mais ça
le roman, et il y a vraiment quelque chose à dire, effectivement, sur les limites des réseaux sociaux qui vous dénoncent. Il y a des gamins qui se suicident à cause de ce qui est posté.
Pour le coup, ça a été beaucoup fait, ça.
Ça a été beaucoup fait, mais malheureusement, ça reste encore là. Et chaque fois qu'on nous dit, ah, c'est formidable, vous allez avec le cloud, avec le machin, avec le truc, pouvoir tout partager, on sait très bien qu'on ne partage rien, à part le pire. On regarde le film, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'incohérences, de facilité.
Ah oui, ça marche pas, quoi.
Ça ne marche pas, il n'est même pas rigoureux dans son écriture. Non. Donc c'est un vrai problème.
Mal adapté. Ouais.
Alors, Eric et Michel ne sont pas allés voir Le Cercle de James Ponsold, mais ils ont vu autre chose. En quelques mots, vous voulez en dire du bien, mais moi je ne l'ai pas vu, c'est lequel ?
Une femme fantastique, un film chilien de Sébastien Lelio, qui est un film remarquable. Sur une transsexuelle qui, après la mort de son mari,
se trouve... Il ne faut pas le dire.
Comment ? Ah si, c'est dit le départ. Ah bah, enfin, Michel ne divulgage rien.
Alors, si on ne doit pas divulguer ni le début ni la fin, on va avoir un problème.
Hein. C'est dès le début.
Ah bah non.
Non, mais non, ça, pas dès le début,
je suis pas un fan du film, mais c'est une des vraies franchises du film, c'est de le dire dès le départ et de
prendre
des
minutes. Minutes.
C'est un film assez brillant, assez.
Moi, je ne le reconnais pas tout de suite.
Assez Hitchcockien dans sa facture et avec un très beau personnage.
Un
voilà,
peu bien pensant,
je recommande vraiment ce film.
Ah oui, un truc très subtil, une histoire de famille, d'héritage, de complications. Non. Très très bien.
Xavier, tu l'as vu également ?
Je trouve que ça fait un peu dossier de l'écran au bout d'un moment. C'est un tout petit peu. Nos amis les trans sont des gens comme tout le monde. La famille est très très méchante, elle est très très victime, très doloriste. C'est pas inintéressant parce que ça a le mérite effectivement de la franchise de son sujet. Mais je trouve que comme Sophie, c'est un peu bien pensant.
Donc une femme fantastique. Et maintenant, on passe au conseil. On va commencer avec Sophie.
Alors rapidement, deux films qui sortent dans 3 jours, le 9 août. Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, qui est un polar bien, comment dire, je dirais couillu.
Comment tu dis?
Mais elle a raison, c'est exactement ça, couillu.
Non, mais dans la bouche de Sophie, ça me fait bizarre quand même.
C'est un violeur de grand-mère.
Tout à coup, je n'ai pas d'autre mot qui me vient.
Ah, c'est un violeur de grand-mère, le film?
C'est un polar sur
une enquête. C'est pour ça que tu dis qu'il est couillu?
Non, c'est parce que c'est un film polar qui n'a pas peur de montrer des cadavres de vieilles dames, qui n'a pas peur de montrer des choses assez horribles, mais sans être complaisant avec la violence. C'est un film très, très, qui dans la moiteur étouffante de Madrid, en plein été, l'été où le pape Benoît VII doit venir faire une visite. Et il y a comme ça un climat très étouffant. Et à l'intérieur de ce climat madrilène, dans cette chaleur-là, il y a cette enquête qui est assez étonnante, quoi, avec deux types qui sont eux-mêmes deux flics au bout du rouleau. Donc c'est assez intéressant. Et Une vie violente qui sort également le 9 août de Thierry de Peretti, qui est un film assez remarquable.
Le conseil de Michel, dont la revue Positive fait son numéro d'été, donc numéro double, consacré aux femmes dans le cinéma américain. Ça, c'est cadeau, hein.
Alors, moi, c'est un livre de Jean-Christophe Averty. J'aime beaucoup le titre, qui est provocateur aujourd'hui de dire ça en titre. La réalité me casse les pieds. C'est des entretiens avec Noël Herp, un livre absolument passionnant qui rappelle l'importance d'Averty, qui est malheureusement que le cinéma n'a pas connu, parce qu'il est resté à la télé, mais un grand créateur. Ses auditions... Plein jour.
Édition Plein jour est donc le numéro de Positif Femmes dans le cinéma américain. Mon conseil, c'est un vent de liberté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'Iranien Behnam Behzadi, qui est sorti le 19 juillet. Formidable portrait de Téhéran en ville ultra, ultra, ultra polluée, d'où une jeune femme, sur l'ordre des médecins, doit exfiltrer à la campagne sa mère qui est très vieille et très malade. Mais cette jeune femme qui est jouée par Sar Dolatsahi ne supporte pas que sa sœur et son frère s'en lavent les mains. Et la considère en gros comme une boniche. J'ai trouvé le film très très simple, hein, très modeste. Il m'a rappelé le meilleur du cinéma d'Asghar Farhadi, pas simplement à cause de Téhéran, mais aussi de l'intrigue psychologique. J'ai trouvé ça formidable, un vent de liberté de Behnam Behzadi. Le conseil d'Éric.
On ressort Profession reporter d'Antonioni, qui est un des meilleurs films de son auteur, classique, et ça fait vraiment plaisir de retrouver Nicholson en reporter qui usurpe l'identité d'un mort qui se trouvait être un trafiquant d'armes, avec une Maria Schneider radieuse, l'Afrique, l'Espagne, et un désespoir complet, bien qu'en couleur. Et le film est tellement bon que c'est celui de toute sa carrière que Nicholson préfère, à tel point que dans le DVD qui existe depuis des années, c'est lui qui fait les commentaires audio, alors que c'est un type qui ne va jamais à la télévision, qui ne fait jamais rien. Et c'est passionnant de voir que le cinéma pouvait donner des œuvres d'art comme ça.
Le conseil du presque docteur, hein, Xavier Le Harpal, je vous rappelle qu'il a fait médecine.
Oui,
t'as arrêté médecine en 5e année, c'est ça?
Oui.
Heureusement que tu n'as pas été médecin. Donc le conseil de
Xavier...
Au contraire,
il aurait été un très bon médecin, hein, je suis sûr.
Tu crois, toi?
Ah, certaine.
Certainement pas. suis désolé, Sophie ne peut pas être d'accord avec
Docteur.
Toi. Un été japonais du côté des reprises avec trois films absolument magnifiques, trois films rares. Le dessin de Madame Yuki de Mitsuguchi, 1950, une femme bafouée, battue par son mari qui n'ose se rebeller contre lui. 6 ans plus tard, Naruse signe Au gré du courant, qui est un film sur les bordels, sur les geishas. La même année, d'ailleurs, Mitsuguchi signera La rue de la honte. Donc c'est un sujet qui les réunit, en tout cas chronologiquement. Et puis Au gré du courant, qui est un autre film de Naruse qu'il tournera en 60, un de ses rares films en couleur. Là aussi, l'histoire d'une femme qui perd son mari à cause d'un accident et qui voit le responsable de l'accident essayer de s'approcher d'elle et de la ramener à la vie, alors qu'à cause de lui, elle a tout perdu. Trois films absolument sublimes.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Michel Simon, Xavier Le Herpeur et Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lysiane Selam, ce soir à la technique au Charles Trenet, il y avait pour nous aider Julien Doumain, que Jean-Benoît Tétu et Fabien Capel. La réalisation était signée Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 17 août. Je vous attends nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée à la rentrée littéraire, l'autre au film de l'été. On parle de littérature dans une semaine. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.